Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de Comprendre l'humain avec ou sans un doc en psycho, une émission balado où je vous partage mes découvertes dans le domaine de la psychologie afin de faire profiter au plus grand nombre toutes ces heures que je mets à lire et à comprendre dans le cadre de mes études. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'approche du système familial interne, Internal Family System, IFS pour les intimes. C'est vraiment une approche que j'affectionne particulièrement. L'idée, c'est que chaque personne est constituée de parties qui sont comme des micro-personnalités. Selon ce qu'on vit, l'une ou l'autre de ces parties pourrait prendre les commandes de ma personne, parler, agir à ma place, etc. Mais idéalement, ce qui est aux commandes, ce qui dirige, ça devrait être moi-même, c'est-à-dire le self avec un S majuscule. Ça, c'est un espace de présence, de conscience. C'est ce qui reste quand les parties ne sont pas aux commandes. Tout ça peut paraître un peu farfelu, mais je vous invite à me suivre dans ce modèle qui, pour moi, m'aide vraiment à comprendre comment moi-même et les autres fonctionnent. Pourquoi parfois on agit impulsivement puis on se demande ensuite « ben voyons, qu'est-ce qui m'a pris? » Pourquoi certains petits événements occasionnent une réaction qui pourrait être qualifiée d'exagérée? Pourquoi parfois on parle à notre conjoint-conjointe pour lui demander simplement un peu d'aide dans les tâches ménagères puis on a tout à coup l'impression qu'on a un enfant devant nous? Eh bien, selon l'IFS, le système familial interne, c'est parce que dans ces trois situations-là, c'est une partie qui est aux commandes. C'est une partie qui me fait agir d'une manière qui ne me ressemble pas. C'est une partie qui déclenche une réaction émotionnelle intense devant un événement qui est plutôt modéré. Et quand je parle à mon conjoint, c'est peut-être un enfant de 8 ans en colère parce que malgré tous ses efforts, son papa ou sa maman n'est jamais contente. C'est peut-être à cet enfant-là que je m'adresse. Ce que je vous propose, c'est d'aller explorer ensemble ce modèle et aussi de voir comment, au quotidien, on peut essayer de mieux fonctionner avec notre système familial interne. Le système familial interne, ou l'IFS, donc ça c'est vraiment les trois lettres à retenir pour ce balado, a été créé par le psychologue Richard Schwartz. Et vous allez voir, l'IFS est vraiment né par les difficultés que ce thérapeute a rencontrées et comment il a ensuite écouté ses clients et ses clientes pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Donc, M. Schwartz est à l'origine un thérapeute familial. Il se spécialise dans les dynamiques interpersonnelles, donc quels sont les liens entre le père, la mère, le frère, la sœur. Au début des années 80, M. Schwartz travaillait auprès d'une clientèle qui souffrait de troubles alimentaires et avec ce modèle de la thérapie familiale. Le principe, c'est qu'en améliorant les relations, les dynamiques entre les différents membres de la famille, les symptômes du ou de la cliente vont diminuer. D'un côté, la thérapie fonctionnait, les relations s'amélioraient. Cependant, les symptômes continuaient chez les clients. Richard Schwartz, au bout d'un moment, a décidé de questionner ses clients à ce sujet-là. Et ceux-ci ont commencé à lui parler de diverses parties d'eux. Une partie qui critique, l'autre qui a mal quand il entend ces critiques-là, et la troisième qui me commande de manger pour engourdir ce mal-là. Au départ, M. Schwartz est inquiet. Il dit qu'il a peur que ses clients sont en fait peut-être un peu plus mal en point qu'il ne le pensait. Mais il a choisi de garder l'esprit ouvert. Et d'ailleurs, ce qu'il observait chez ses clients et ses clientes ressemblait étrangement aux dynamiques interfamiliales. Une mère qui critique sa fille, qui, elle, se met à pleurer. Donc, sa grande sœur essaie de la calmer en l'amenant manger une crème glacée. Et si ces dynamiques-là se retrouvaient aussi à l'intérieur de nous? Schwartz a alors commencé à appliquer les techniques de thérapie familiale, mais à l'intérieur d'une même personne. Il disposait des chaises dans son local pour représenter les différentes parties. Le ou la cliente se promenait de chaise en chaise pour faire parler les parties. Cependant, Schwartz a commencé par croire que certaines parties, comme les critiques intérieures, les parties autodestructrices, étaient nuisibles et qu'il fallait les contrôler, les convaincre de changer leur comportement. Cependant, au bout d'un moment, il se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Même que ces parties avaient tendance à augmenter leur comportement comme pour se révolter. Schwartz donne l'exemple d'une jeune femme ayant été abusée sexuellement dans son enfance par son père et qui avait pris l'habitude de s'automutiler. Selon la nouvelle perspective de Schwartz, bien en fait, ça c'était une partie automutilatoire et en thérapie, il essayait de la convaincre d'arrêter ce comportement sans succès. Un jour, il décide de poursuivre la séance jusqu'à ce que la partie promette de ne pas couper la cliente et à la fin de la séance assez intense, la partie accepte et la cliente part. Mais la semaine suivante, elle revient avec la joue droite balafrée. Schwartz est vraiment découragé par cet échec thérapeutique et dit à la partie « Ok, j'abandonne, je ne peux pas te battre à ce jeu-là. » La partie lui répond « Mais moi, je ne veux pas me battre avec toi. » Schwartz change alors d'attitude. Au lieu de vouloir la contrôler, il devient curieux envers cette partie-là. Il lui demande « Pour quelle raison est-ce que tu coupes la cliente? » La partie lui explique alors que c'est lié aux abus sexuels, que c'est le moyen qu'elle a trouvé de garder la cliente en dehors de son corps pendant les abus et aussi que ça lui permet de contenir toute la rage qu'elle ne peut pas en fait exprimer devant son père. Autant le geste était violent, autant l'intention était bienveillante au fond. Et Schwartz le voit et il le dit à la partie automutilatoire. « Je vois combien tout ce que tu fais, dans le fond, c'est pour protéger la petite fille abusée puis l'aider à passer à travers. » La cliente, qui est alors assise dans la chaise de la partie automutilatoire, fond en larmes. C'était la première fois que quelqu'un la comprenait vraiment sans la juger. Avec l'IFS, on a vraiment un changement de paradigme. Et moi, j'en vois deux principaux. Premièrement, on a le droit d'avoir plusieurs parties, points de vue, micro-personnalités. Et ça, à mon avis, ça permet de mieux rendre compte de la complexité qu'on vit parfois. Par exemple, j'aime telle personne, j'aimerais rester en relation avec, mais en même temps, cette personne-là n'est pas disponible, n'a jamais de temps à me consacrer, ça ne répond pas à mes besoins. Donc, d'un autre côté, je devrais mettre fin à la relation. Et là, j'hésite. Un autre exemple, je m'ennuie dans mon métier, mais d'un autre côté, j'aime la stabilité que ça m'apporte. Je me sens en colère contre mon conjoint ou ma conjointe qui ne m'apporte pas le soutien dont j'ai besoin. Mais de l'autre côté, je comprends que c'est parce qu'en ce moment, il ou elle n'en a pas la capacité. Dès qu'on a un dilemme, deux points de vue, c'est qu'il y a deux parties de soi. Et il y a souvent une troisième partie qui est tannée de voir les deux autres parties se chicaner constamment. Donc, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, oui, et je le remarque aussi dans les gens autour de moi. Donc, premier changement de paradigme, on a le droit à la pluralité. Ensuite, le deuxième changement, c'est que toutes les parties sont bonnes à la base. Certaines d'entre elles deviennent extrêmes, violentes, dommageables, parce qu'il leur est arrivé quelque chose. Elles portent un trauma, une blessure, un fardeau, on utilise le mot fardeau en IFS, qui provient de l'extérieur et non pas de notre nature humaine. Par exemple, une personne qui, enfant, a été battue. Eh bien, pour survivre, elle a créé, entre guillemets, une partie qui faisait en sorte qu'elle s'effaçait pour se faire toute petite pour ne pas attirer la colère. Pour garder l'enfant tranquille, la partie s'est mise à lui dire de se la fermer puis à l'insulter. « Tais-toi, t'es conne, t'as rien à dire. » Lorsqu'elle était enfant, cette partie-là avait un rôle important dans son système, dans sa personnalité. C'était d'empêcher l'enfant d'être battu. Mais le problème, c'est que les parties qui sont créées dans la souffrance, souvent, elles ne grandissent pas. Elles restent comme figées dans le passé. Adulte, cette partie-là est encore présente. Et quand elle le sent nécessaire, quand elle ressent du danger, il fait ce qu'elle a appris à faire. Elle dit « tais-toi, t'es conne », etc., d'autres phrases du genre. Et ce faisant, elle va miner l'estime de la personne, elle va miner sa capacité à s'affirmer, son agentivité. Donc oui, l'impact est négatif, mais l'intention, elle, reste toujours positive. protéger, être au service de la personne. Selon plusieurs approches, cette partie-là serait l'ennemi. Il faudrait changer la pensée, changer les croyances, rejeter, faire taire ce critique interne qui est méchant. Mais selon l'approche IFS, on essaie plutôt d'aller comprendre pourquoi cette partie ressent-elle tant le besoin d'aller insulter la personne. On va aller lui demander, on va aller rejoindre l'intention de base qui est en fait de maintenir la sécurité de cet enfant qui vivait avec un parent violent. Ensuite, oui, on va travailler pour changer la stratégie que la partie utilisait. Donc, on ne va pas lui dire « continue à insulter, ça marche très bien ». On va plutôt lui proposer d'autres alternatives pour assurer la sécurité. Selon l'IFS, on est donc constitué d'une multitude de parties dont la nature est bonne. Ce qui est important de dire, c'est que les parties ne sont pas toujours issues de blessures du passé, comme on l'a démontré jusqu'à maintenant. Certaines sont porteuses d'une force, d'une énergie qui peut nous aider à certains moments. On les appelle les alliés. Par exemple, une partie jeu peut m'aider à m'amuser encore plus avec mes enfants ou à avoir beaucoup de plaisir dans une fête. Une partie organisation peut m'aider à rien oublier quand je prépare mon voyage. Personnellement, je pense que j'ai une partie en moi apprentissage. Quand je traverse un événement difficile dans la vie, elle est souvent là et elle me dit « au moins, on va pouvoir apprendre quelque chose là-dedans ». Ensuite, il y a les exilés. Ça, c'est des parties vulnérables, sensibles, innocentes, comme des petits-enfants. Ce sont elles qui ont eu mal dans le passé. Ce sont elles qui ont reçu le coup, l'insulte, le trauma. Dans l'exemple de l'enfant battu, ça serait peut-être une immense peur et tristesse et détresse que l'enfant a ressenti lorsque la personne qui devait le protéger était en fait celle qui lui faisait du mal. L'expérience était alors trop intense, puis la partie qui souffrait a comme été coupée du reste du système. Ici, je me permets de faire une parenthèse pour expliquer comment ça se passe au niveau neurobiologique et je me base ici sur une conférence sur le trauma de François Ledeuze, qui est un neurologue. Donc, selon Ledeuze, le cerveau, par nature, veut connecter. Il veut connecter les émotions avec les lobes préfrontaux. Il veut que ça connecte dans le cerveau. Le trauma, que ce soit à petite ou grande échelle, selon la vision de Ledeuze, peut être à la fois quelque chose de plus subtil, comme un enfant qui a vécu de l'intimidation ou dont la mère a vécu une dépression, ou ça peut être aussi un trauma plus intense, comme d'avoir vécu la guerre, de vivre de la violence physique. Bref, un trauma, c'est lorsqu'il y a déconnexion à plus petite ou grande échelle. Plus spécifiquement, la partie traumatisée, on l'isole du reste pour continuer à fonctionner. Un trauma, c'est issu d'une expérience inadéquate face au danger. Donc, idéalement, quand un danger arrive, mon cerveau et mon corps s'activent pour faire face au danger, soit en voulant fuir, combattre ou en se figeant, et le danger diminue. Quelqu'un me frappe, je réponds en lui criant d'arrêter, il arrête, s'excuse et ça ne se reproduit jamais. Mais dans le cas d'un trauma, le danger ne diminue pas. Il reste, il revient. Et le système doit continuer à fonctionner avec cette activation neurobiologique au niveau du cerveau et du corps. Donc, pour continuer à fonctionner, il dissocie cette réaction-là. La partie qui est activée dans la fuite, dans le combat ou dans le figement est isolée du reste du système. L'enfant se fait frapper par son parent, lui crie d'arrêter, mais ça ne marche pas, même que ça aggrave la situation. Il apprend que c'est mieux de se taire, que ça arrête plus vite, que ça arrive moins souvent. Donc, la partie qui veut crier est isolée du reste du système. Mais pourtant, au fond de l'enfant, il y a encore cette rage qui veut crier d'arrêter. La dissociation, c'est la manière de continuer à fonctionner avec les mécanismes de survie qui sont activés en les isolant. Donc ici, c'est la fin de la parenthèse neurosciences. Mais c'est pour ça que dans l'IFS, on leur a donné le nom d'exilés, parce qu'on les a exilés du reste du système. Mais elles ressortent parfois lorsqu'il y a quelque chose qui rappelle la saveur de l'événement traumatique. Un son, un ton de voix, une expression faciale, une situation ou une odeur. La personne peut alors avoir des cauchemars, des sautes d'humeur intenses. Et quand elles reviennent, les exilées, elles ont tendance à envahir tout notre système, parce que pour elles, elles sont encore au moment T du trauma. Donc, elles vont prendre beaucoup de place tout à coup. On dit alors qu'on est identifié à une partie. C'est cette partie-là qui est aux commandes et on ne fait plus la différence entre cette partie-là et nous-mêmes. Concrètement, ça ressemble à quoi quelqu'un qui est identifié à une partie exilée? Bien, elle va pleurer sans pouvoir s'arrêter, complètement découragée. Elle va frapper dans un mur et ça va faire un trou. Elle va crier, insulter, elle va faire une crise. Les exilés, ce sont des petits-enfants en détresse. Ensuite, on a deux types de protecteurs. Donc, les protecteurs, ce sont eux qui ont vu comment la partie exilée a souffert et comment le système a été chamboulé par son activation. Pour assurer notre stabilité, leur but, c'est d'empêcher que les exilés soient activés. Tout d'abord, il y a les managers qui travaillent de manière préventive. Ils essaient que la situation n'arrive pas. Si, par exemple, l'exilé a tendance à se déclencher quand je perds la face, quand je me sens humiliée, eh bien, le manager va peut-être devenir perfectionniste à l'excès. Il y a des managers qui sont proactifs, donc comme les perfectionnistes, ceux qui s'inquiètent pour tout afin d'éviter tous les problèmes éventuels, comme on retrouve parfois dans les troubles anxieux. Il y a aussi les managers davantage passifs, qui sont dans l'évitement, dans le déni ou même dans l'auto-dévalorisation, parce que ce faisant, elles peuvent nous décourager d'aller dans une situation qui pourrait peut-être déclencher l'exilé. Pour continuer avec cette partie qui a une blessure d'humiliation, donc par exemple, quoi que l'enfant faisait, le parent pointait toujours là où les erreurs qu'il avait faites. Donc, une partie proactive pourrait pousser la personne à travailler jusqu'à la perfection afin d'éviter toute possibilité d'humiliation, ou encore pourrait l'encourager dans la procrastination. Parce que si je ne me suis pas forcée, eh bien mon échec éventuel, mes erreurs ne reflètent pas mes capacités réelles et donc mon estime de moi est intacte. Ensuite, les pompiers sont encore des parties protectrices, mais réactives. Elles arrivent pour engourdir, pour interrompre l'émergence des exilés. Donc, quand les pompiers sont là, les parties exilées sont déjà en train d'être activées. Leur but, c'est d'éteindre le feu émotionnel par tous les moyens. Alcool, drogue, nourriture, pornographie, comportement sexuel impulsif, binge-watching, automutilation et, à l'extrême du spectre, le suicide. Mais aussi nocives qu'elles puissent paraître, ces parties protectrices agissent dans une bonne intention, celle de nous préserver de diverses souffrances, l'humiliation, l'abandon, et aussi de préserver notre équilibre. Et au milieu, à travers toutes ces parties, on a notre vraie nature, notre self avec un grand S, le soi, la présence. C'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans le domaine de la spiritualité et heureusement de plus en plus dans plusieurs nouvelles approches en psychologie. Le self, selon Schwartz, c'est l'essence ou le cœur intact de chaque personne. C'est notre identité profonde, ce qui reste quand on n'est pas identifié à aucune partie. Vous l'avez probablement déjà expérimenté à travers la méditation, le sport ou des moments de création. C'est quand même une expérience difficile à décrire en mots, mais j'ai écouté hier une vidéo d'Isa Padovani qui est notamment formée dans l'approche IFS et qui parlait d'une distinction entre ce qui a un début et une fin et ce qui est toujours là. Les émotions, les bonnes ou les mauvaises passes dans la vie, les relations, tout ça, ça a un début et donc une fin. Mais ce qui est toujours là, à travers tout ce qui se passe, peu importe l'émotion, peu importe ce qui se passe dans ma vie, ben je pense que c'est un peu ça le self. Richard Schwartz utilise 8 C pour décrire un peu la saveur du self. Tout d'abord, il y a la curiosité. Ça, c'est l'envie, vraiment une curiosité sincère de savoir qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en l'autre. Ensuite, il y a la compassion envers nos parties, envers les autres. La confiance que mon self et le self des autres ont toutes les ressources pour faire face aux événements de la vie. Et ça, je le vis souvent avec ma fille. Si je suis convaincue qu'elle est capable, si je suis dans cette énergie de confiance dans mon self, eh bien souvent ça l'aide, parce que le self, comme le dit Richard Schwartz, c'est contagieux. Le courage, donc comme cette sensation de force devant ce qui peut paraître comme périlleux, parce que d'aller à la rencontre des parties exilées, ça peut être épeurant. Il y a aussi la clarté, cette sensation de voir les choses clairement. La créativité, c'est une autre des saveurs du self. Le calme et la connexion avec nos parties, avec les autres, les animaux, la nature. Ce qu'on essaie de faire avec l'IFS, c'est de diriger notre vie à partir du self. Donc, Richard Schwartz amène la notion de self-leadership, qui est un style de leadership collaboratif, actif, curieux, patient, autant au niveau interne, donc avec nos parties à l'intérieur de nous, qu'externe avec les autres. C'est lorsqu'on guide nos actions, qu'on prend nos décisions à partir de cet espace qui est entre les parties. On écoute les parties, ce qu'elles ont à dire, on est curieux, curieuse envers elles, mais la décision finale émerge du self. Donc, ce n'est pas un style de leadership comme de s'encourager, je suis bon, je suis bonne, je suis capable. Ça, ce serait plutôt une partie cheerleader. Mais c'est plutôt, et ici je cite Richard Schwartz, une expérience physique qu'on ressent jusque dans les os. Une sorte de confiance que ce que je suis, mon self, c'est vraiment pure bonté et force. Une idée intéressante dans l'IFS, c'est que le self est là en nous. Il serait inné. On n'a pas besoin de le cultiver, de le faire grandir. Il faudrait simplement apprendre à y accéder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire, mais le travail, ce n'est pas de faire créer le self, mais d'apprendre à habiter l'espace entre mes parties. Une autre idée que j'aime en IFS, c'est cette gradation. On peut avoir un peu, moyennement ou beaucoup de self. Par exemple, je peux être super identifiée à une partie, j'ai proche de 0% de self en ce moment. Puis je commence à ressentir de la curiosité, de la compassion. J'arrive à 25%, puis je ressens tout à coup un peu plus de calme, de confiance. Je monte à 50%, etc. Donc le but, ce n'est pas d'être 100% dans le self, mais c'est d'essayer de monitorer je suis à combien et est-ce que je pourrais en avoir un petit peu plus? Et comment justement on peut en avoir plus? Mais tout d'abord, on peut aller chercher une des qualités du self, un des 8 C. Souvent, pour moi, un mélange de curiosité et de compassion, c'est une bonne porte d'entrée. Oh, qu'est-ce qui se passe là, ma chérie? Ça a l'air difficile pour toi en ce moment. Je pourrais me dire ça moi-même en m'adressant à la partie de moi qui est déclenchée en ce moment. Il y a aussi une manière de s'exprimer qui aide. Au lieu de dire « je suis triste », on peut dire « il y a de la tristesse en moi ». Une part de moi est vraiment triste. Et là, entrer en relation avec cette part, avec les qualités du self, curiosité, compassion, clarté, calme, confiance, etc. Donc le but, ce n'est pas de déconnecter, d'exiler justement cette partie triste, mais d'aller à sa rencontre comme une mère, un père, un ou une amie ferait. Dans le processus du système familial interne, dans le processus thérapeutique, ce qui guérit, bien, c'est la connexion entre le self du client et les parties exilées, protectrices, etc. Ici, ça se distingue vraiment de plusieurs thérapies où les parties du client blessé se tournent vers le self du thérapeute et ça fait du bien. Et éventuellement, on espère que par imitation, le client va intérioriser ce self accueillant et sans jugement. Avec l'IFS, cet objectif-là est déclaré en partant. On cherche à ce que le self du client entre en lien avec ses parties. Quand le self du client est présent, le thérapeute n'intervient pas. Il aide le client à développer, à renforcer son self-leadership et aussi sa confiance qu'il a cette force-là, cette bonté-là en lui. En termes polyvagal, on pourrait dire qu'on essaie de renforcer son ventral, pour ceux et celles qui ont écouté mon épisode sur la théorie polyvagale. Si on retourne à la vision du neurologue Ledoz, c'est de remettre en marche le processus d'association qui est naturel pour notre cerveau. On n'essaie pas d'enlever la partie mauvaise, mais on l'intègre avec ce self curieux, compatissant, confiant. Mais comment peut-on réintégrer justement ces parties exilées dans notre système? Donc, M. Richard Schwartz propose certaines étapes que je vais vous présenter. Je le fais parce que je pense que ça peut vraiment vous inspirer et aussi clarifier c'est quoi l'IFS. Cependant, une mise en garde avant tout, c'est que parfois dans ce genre de processus, c'est mieux d'être accompagné pour deux raisons. Premièrement, on a tous des ondes aveugles parce que justement, il y a des parties dont la mission, c'est de nous empêcher de voir certaines choses. Donc, de se faire accompagner, ça peut vraiment aider. Ensuite, dans le processus, ça se peut qu'un exilé ressorte et à ce moment-là, l'intensité émotionnelle va augmenter beaucoup et c'est possible que votre self soit pas très présent à ce moment-là et que vous ayez besoin d'utiliser le self d'une autre personne qui vous accompagne jusqu'à temps que vous retrouviez votre propre leadership. Je vous invite à vous inspirer, à utiliser ces étapes-là pour mieux comprendre quelle est l'approche de l'IFS, mais sans jamais perdre de vue que souvent un accompagnement est nécessaire dans ces démarches psychothérapeutiques. Les étapes sont les suivantes. Tout d'abord, on essaie de créer un lien avec les protecteurs, de découvrir quelle est leur intention derrière leurs actions et de voir s'ils auraient l'ouverture d'essayer une autre stratégie. On pourrait dire, par exemple, au protecteur, « Je vois vraiment que ton intention, dans le fond, c'est de protéger, de t'assurer de la sécurité de cette personne-là. Est-ce que tu aurais l'ouverture que moi, j'essaie d'aller à sa rencontre? Peut-être que je pense que je pourrais l'aider. Est-ce que tu me laisserais faire ça? » Peut-être que le protecteur va dire oui, peut-être qu'il va dire non, mais on n'avance pas tant que le protecteur n'a pas choisi, n'a pas accepté de nous laisser avancer. Ensuite, on va aller créer des liens avec la partie exilée. Et là, le self va être témoin de tout ce que l'exilé veut lui montrer. Comme le dit Marshall Rosenberg, qui est psychologue et fondateur de la communication non-violente, le premier besoin de tous les besoins, c'est d'être reconnu et accueilli. Donc concrètement, l'exilé va peut-être vouloir nous montrer un souvenir, plusieurs souvenirs, puis le self ben, va en être témoin, va démontrer de la compassion, va vraiment essayer de saisir l'expérience de la partie. Le self va aussi prendre soin de cette partie-là, peut même aller dans le souvenir pour, par exemple, prendre l'enfant dans ses bras et repousser l'adulte qu'il violentait. Le self offre intérieurement à la partie ce dont elle aurait eu besoin jadis. Ensuite, il y a le rituel pour se débarrasser du fardeau de l'exilé. Donc, tout d'abord, le self demande à l'exilé si elle a un fardeau qu'elle traîne sur ou dans son corps. Ensuite, par un rituel, on va détruire ce fardeau-là en utilisant, par exemple, un des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. En faisant le rituel, on va s'assurer que la partie exilée regarde le fardeau disparaître. Ensuite, on va lui demander... Maintenant qu'elle ne porte plus ce fardeau, quel rôle elle aimerait jouer dans notre système? Par exemple, la partie enfant qui était terrorisée devant le parent violent pourrait maintenant vouloir jouer ou être le responsable des câlins ou dessiner. Ensuite, on retourne voir les protecteurs et on va vérifier s'ils ont bien vu ce qui s'est passé, s'ils ont vu que la partie exilée n'a plus son fardeau et aussi qu'elle est maintenant sous la protection du self. Au besoin, on va leur remontrer, comme si on avait enregistré tout ce qui vient de se passer sur un vidéo et qu'on rejoue la vidéo. On les invite ensuite à choisir un nouveau rôle. Puis comme le fait remarquer Schwartz, souvent les rôles que les protecteurs vont choisir sont opposés à ce qu'ils faisaient avant. Un critique va devenir celui qui encourage, par exemple. Puis souvent, les protecteurs sont soulagés de ne plus avoir à faire ce qu'ils faisaient. Certains sont juste épuisés parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans qu'ils font ça. Ils veulent simplement partir à la retraite ou en voyage. C'est correct, on les laisse partir. Donc, on essaie vraiment, avec l'IFS, de créer une harmonie dans le système où les parties sont entendues, aimées et où elles acceptent que le leadership, ce soit le self qui l'aille. Le self devient en quelque sorte le chef d'orchestre ou encore une mère ou un père d'une famille très nombreuse. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé peut-être à mieux vous comprendre et à aimer toutes les parties de vous, ou du moins à vous ouvrir à l'idée de les aimer. Je me suis basée évidemment sur les travaux du Dr. Schwartz, plus précisément sur le livre « Internal Family System Therapy, New Dimensions ». Toutes les références plus précises sont dans la description de l'épisode. J'y ai aussi mis un lien vers une conférence donnée par le Dr. Schwartz qui est très intéressante. La pièce musicale qui nous a accompagnés s'intitule « Marie » et a été créée par l'artiste Kay Engel. Merci encore de m'avoir écouté. Une partie de moi qui aime beaucoup la transmission et la contribution est vraiment dans la joie de vous partager cette émission balado sur le système familial intérieur. À la prochaine!